Bienvenue dans l'Antre du Gnome, votre série audio de fantasy. Vous vous apprêtez à écouter un épisode de la première saison, intitulé Les Parjures. Pour une meilleure expérience, installez-vous bien confortablement et utilisez un casque ou des écouteurs. Bonne écoute! Attention, ce programme peut contenir des scènes susceptibles de choquer les auditeurs sensibles. Il est déconseillé aux personnes de moins de 15 ans. Balord monta les escaliers à la hâte. Les alchimistes l'avaient fait appeler et l'impatience d'en connaître la raison l'obligeait à se dépêcher. Était-ce prêt ? Arrivé devant la large porte de bois, l'homme s'arrêta. Il lissa avec soin sa tunique pourpre, réajusta sa longue cape noire et reprit son souffle. Sans frapper pour s'annoncer, il poussa le bâton. À sa vue, les trois sorciers lui adressèrent une révérence exagérée. Le plus petit et le plus vieux d'entre eux commença.
« Seigneur mage, quel heureux plaisir de vous voir !»«
Pourquoi m'avoir fait venir, Calorgue ? Vos recherches ont abouti ?»
Le vieil homme sourit largement, laissant apercevoir sa bouche édentée, et attrapa une petite fiole sur un établi. Il s'agenouilla en l'attendant à son maître.
« Oui, votre grandeur, nous avons réussi !» « La naissance de magicien ne sera plus le fruit du hasard !»
Balord saisit le récipient, les yeux luisants d'envie. Il admira le liquide bleuté ondulé au gré de ses mouvements. Il le possédait enfin. Un rictus malsain étira ses traits. Après plusieurs secondes, le haut mage se détourna du flacon et s'adressa à ses sbires.
« Vous avez fait du très bon travail, messieurs. Expliquez-moi le procédé. »
« Eh bien, seigneur, le mage doit boire la potion et son pouvoir va se scinder en deux. »
Calorgue hésita un instant, mal à l'aise. Son souverain lui jeta un regard noir.
« Continuez. »«
C'est après que les choses se compliquent. Le mage devra en faire passer une partie dans le fœtus. » S'il se trompe, il pourrait lui transmettre l'intégralité de son pouvoir.
Il deviendrait humain.
Oui, hommage.
C'est ennuyeux. Qu'adviendra-t-il de sa force après le transfert ?
Oh, la magie est une créature extraordinaire. Elle se mettra à pousser telle une plante, chez le mage comme chez l'enfant, avec de l'entraînement, bien sûr.
Le grand homme s'approcha pensivement de la fenêtre. La plus haute pièce du palais disposait d'une incroyable vue sur la ville et ses environs. Le magicien observa les quartiers les plus en périphérie. Même d'ici, l'on pouvait voir qu'ils étaient sales et délabrés. Ces districts étaient réservés aux simples humains, aux communs. Ils devaient disparaître. Balord passa une main sur son crâne chauve et se retourna.
Trouvez rapidement une solution à notre problème. L'épuration commence ce soir.
Les alchimistes s'inclinèrent à nouveau au passage du hommage et leurs regards avaient changé. La peur s'y lisait désormais. Assis sur son trône, Balord attendait. La nouvelle venait d'être proclamée dans les rues de la ville. Demain, elle se répandrait dans tout Limousie. Combien allait répondre à l'appel de la créatrice ? Combien ferait acte de foi ? La foi. Les communs étaient si naïfs. On leur faisait croire n'importe quoi pourvu qu'on raconte le tenir de la déesse. Un sourire mauvais étira les lèvres du sorcier. La créatrice servirait ses plans. Un coup frappé sur l'immense porte le sortit de ses pensées. Une petite tête brune apparut dans l'embrasure.
« Entre !»
Imdea s'approcha lentement. Le dos voûté, le corps frêle et décharné, la vue de l'oracle arracha à Balord une grimace de dégoût.
« Qu'y a-t-il ? » ?»«
Le premier tribu s'est présenté, maître. »«
Bien ! Prépare l'autel. J'arrive. »
Alors que la médium quittait la salle, Balor ne put se retenir de rire bruyamment. Tout fonctionnait comme il le prévoyait. Ces stupides êtres ne seraient bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Le haut mage, vêtu d'une tunique immaculée, s'avança solennellement sur la vaste terrasse. L'odeur des encens associée aux flammes des bougies conférait au lieu une ambiance mystique. Des curieux s'étaient amoncelés sur les autres plateformes décorant les hauts murs du palais. À leurs pieds s'ouvrait la faille, ce gouffre sans fond menant au centre du monde où se levait la créatrice. Balord se souvint du jour où il était descendu à sa rencontre. Elle était telle qu'on la lui avait décrite, une sphère d'énergie brute, irradiant d'une douce lumière bleutée, tout aussi pure et calme qu'elle était violente et sanguinaire. Après lui avoir délivré l'intégralité de ses pouvoirs, la déesse lui avait chuchoté que de grands projets l'attendaient. Et le voilà aujourd'hui, prêt à les réaliser. Le mage se plaça devant l'autel, au bord du précipice, où un jeune homme était étendu, la peur crispée ses traits.
Détestable créature.
Sans plus d'égard pour le tribut, il commença avec théâtralité.
Mère de toutes choses, voici maintenant le sang de ton enfant. Regarde, nous exauçons ton souhait. Puisse cette offrande de chair et de sang apaiser la colère qui demeure en ton sein. Pardonne-nous nos offenses et permets à notre terre d'exister pour les siècles à venir.
Le son d'un tambour retentit, imitant des battements de cœur. Le haut mage saisit une longue dague et la souleva vers le ciel à deux mains. Le rythme s'accéléra dans un fracas oppressant. L'air vibra et s'échauffa. Balord tremblait d'excitation. Le monde semblait tourner autour de lui. Tout à coup, le poignard tomba. La musique cessa. La lame pénétra le corps. L'exultation suintait de tous les pores du mage. Avec un rictus sadique, il tira fort et l'arme éventra le garçon jusqu'au nombril. Ce dernier essaya de respirer, les traits déformés par la douleur. Le sorcier se plaça derrière sa tête et lui maintint fermement le menton vers l'arrière. D'un geste vif et précis, il lui trancha la gorge. Le sang gicla de la plaie béante se répandant sur l'autel. Il glissa ensuite dans de petits canaux jusqu'à se jeter dans la faille. Le haut mage trempa ses doigts dans la blessure et les passa sur son visage, laissant sur sa peau des traces ensanglantées. Ses yeux, d'un bleu perçant, brillaient d'une lueur de folie. La foule était telle que Nahan eut du mal à se frayer un passage sur la place. La petite main de la vie bien ancrée dans la sienne, l'homme tenta de se rapprocher de l'estrade. Sa fille adorait voir les mages et elle souhaitait être au premier rang lors de la déclaration publique. Alors que le sorcier commençait son allocution, ils parvinrent enfin devant lui.
Peuple de Sengan, voilà maintenant un mois que la créatrice a informé les oracles de sa colère. Nous l'avons contrariée et nous devons en payer le prix. Nous remercions les nobles âmes qui ont accepté de lui être offertes en sacrifice. Néanmoins, la déesse ne semble pas se satisfaire de ce maigre tribut. C'est pourquoi aujourd'hui je me tiens devant vous.
Ils vont encore demander plus de sang.
Il nous est nécessaire de procéder à plus d'offrandes de sang.
La créatrice est en colère, il le faut bien.
Ah bon? Et pourquoi eux ne se sacrifient-ils pas?
Votre mort sera récompensée quand vous vous tiendrez aux côtés de la déesse.
Que voulez-vous dire?
Vous avez assisté au sacrifice d'un mage, vous?
Non, jamais.
Ils nous utilisent. Ils veulent réguler notre population.
Si vos enfants souhaitent être offerts, vous n'avez pas le pouvoir de les en empêcher.
Pourquoi feraient-ils ça?
Parce qu'on les gêne. Il paraît qu'ils ont même tué tous les prisonniers de la forteresse.
Ceux qui refuseront ou empêcheront le sacrifice d'un tiers seront considérés comme parjures.
De qui tenez-vous ça?
D'une mage de la terre. Peu importe comment elle s'appelle.
Les impies comparaîtront devant la créatrice et seront exécutés à sa gloire. Peuple de Sengan et des autres cités, faites ce qui est juste.
La petite Lavi applaudit avec enthousiasme. Son père, lui, regarda le crieur d'un air perplexe, puis s'empressa de regagner sa chaumière, tirant sa fille par le bras. Les paroles de l'homme avaient fait leur nid dans son esprit, mais Nahan refusa d'y croire. Peu importe les plans du haut mage, tant qu'il ne provoquait pas de vagues, il ne risquait rien. L'automne avançait et Nahan avait du mal à réchauffer la petite masure. Assise dans le lit surélevé, bien emmitouflée dans une couverture rapiécée, la vie observait son père s'activer autour du foyer. Elle s'impatientait.
Papa, raconte-moi une histoire, s'il te plaît.
Une minute, ta puce. Je vais faire partir le feu d'abord.
La fillette soupira. Après plusieurs minutes à souffler sur les braises, son père réussit enfin à raviver les flammes.
Quelle histoire veux-tu ?
Celle de la jolie femme.
Nahan sourit et monta sur le lit. Sa fille s'enroula dans une couverture et se blottit contre lui.
Il y a quelques années, un jeune homme décida d'aller se promener dans les champs. Alors qu'il s'était arrêté pour boire l'eau d'un ruisseau, un bruit l'interpella. Il s'agissait d'une douce voix qui fredonnait. Intrigué, le garçon se laissa guider par la mélodie. C'est là qu'il la vit. La jeune femme, ses cheveux, blonds comme les blés, reflétaient les rayons du soleil d'été. Sa peau avait le velouté d'une pêche et ses yeux ressemblaient à l'océan sous la tempête. Le garçon tomba éperdument amoureux. Mais il resta caché pour ne pas interrompre le chant de ce rossignol.
La vie entonna doucement les premières notes, rapidement rejointes par la voix de son père.
L'épervier planait au-dessus de nous. Plus aucun chant ne sonnait.
Sombre était son cœur, cruel son courroux. Sans relâche, il nous traquait. Les gorges nouées tremblaient les genoux. Tous la peur nous bâillonnait. Quand on vit se dresser fièrement devant nous la mésange qui chantait. Regardez là-bas, loin devant, l'horizon blanc nous appelle. Sentez-vous l'espoir dans le vent, c'est lui qui porte nos ailes.
Il s'est passé quoi après ?
Eh bien, le garçon a pris son courage à deux mains et il lui a dit qu'elle était magnifique. Son côté un peu maladroit a fait fondre la jeune femme qui lui a donné un baiser. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés.
Je voudrais la connaître.
Tu lui ressembles beaucoup.
La petite fille avait les larmes aux yeux et Nahan la serra plus fort dans ses bras.
Elle te manque, dis ?
Oui, beaucoup. Mais je tais-toi.
Je suis sûre qu'elle serait fière du papa que t'es.
L'homme sourit tendrement tandis que ses yeux noisettes s'embuaient. Zolène avait quitté son monde depuis 8 longues années, mais il la retrouvait dans chaque geste, chaque expression de leur fille.
Je t'aime.
La vie posa sa tête sur le torse de son père et ferma les yeux. Il lui caressa doucement les cheveux alors qu'elle sombrait dans le sommeil.
Je t'aime aussi.
L'équipe de l'Antre du Gnome vous remercie pour votre écoute. Nous espérons vous revoir bientôt. Ce programme a été écrit par Mirado. Il vous a été conté par l'autrice ainsi que par Timothée Dolidon. Vous pouvez retrouver la liste des musiques dans la description de l'épisode. Les textes, les voix, ainsi que la chanson La Mésange sont protégés par le droit d'auteur.